Chapitre 9. Monsieur de Carquebute était si pressé de porter à Rudemont la lettre de Louis qu'il abrégea son déjeuner. Il ne mit qu'une heure et demie à manger une belle assiettée de tripes à la mode de Caen, une truite à la crème, un fricandeau à l'oseille et un de ces filets de bœuf épais et saignants qui ont fait la réputation du bœuf couronné. Le tout arrosé de deux bouteilles de Bordeaux et d'une tasse de café, dans laquelle passa, par petits verres versés les uns après les autres, tout un carafon de calvados. Tout en mangeant, il lisait la lettre que Louis avait eu la délicatesse de lui remettre non fermée, et il en pesait chaque phrase. « C'est avec le plus vif regret, mon cher cousin, qu'il nous est impossible de nous rendre, ma mère et moi, à votre invitation. » « Il est certain, se dit-il, qu'en mangeant leurs saucisses, ils doivent regretter les dîners de Rudemont. Mais des circonstances plus fortes que notre volonté nous privent du plaisir d'aller passer la journée de demain avec vous à Rudemont. » Comment Arthur va-t-il accepter cette excuse? Tout est là. « Si vous vouliez bien me faire savoir par un mot quel jour vous pourrez recevoir ma mère, c'est-à-dire quel jour Madame Beaujonnier ne sera pas au château, elle sera heureuse d'aller vous voir. Pour moi, demain matin, avant l'audience, j'irai vous faire une courte visite d'amitié et j'espère être plus heureux que je ne l'ai été ce matin. J'ai envie de voir la figure que fera demain matin monsieur le magistrat, dit monsieur de Carquebute en battant vivement son gloria. Et il s'en revint joyeusement à Rudemont. L'air était doux, pas de poussière sur la route, vraiment il faisait bon vivre. Devant lui, sur la crête de la colline, le château, et sur les pentes accidentées, la forêt immense. Dans les pâturages, des bœufs gorgés de nourriture au milieu d'une herbe épaisse qui leur montait jusque par-dessus le dos. Tout cela lui appartiendrait. À ce moment, il aperçut un gamin qui coupait une baguette dans une haie. Il courut à lui et cingla un coup de cravache sur les mollets nus de l'enfant. « Que je te vois dévaster mes haies » dit-il. Cet incident changea le cours de ses idées et, en se remettant en route, il pensa aux paroles de sa sœur. Qu'avait-elle donc voulu insinuer en lui disant de prendre garde à lui? Que Clémence se ferait épouser par le marquis? Mais le capitaine n'était pas mort et ce serait assurément Arthur qui partirait le premier. Que Clémence se ferait donner par testament la fortune du marquis? Mais il n'était pas probable que le marquis dépossédât sa famille au profit d'une étrangère et sa famille, maintenant que Denise était éloignée et qu'il allait y avoir rupture avec les Méraud, se composait uniquement de lui, Artème de Carquebute. Sans doute, il était possible que Clémence eût l'idée de se faire faire ce testament. Mais il saurait bien empêcher la réalisation de cette idée. Si elle était fine, la petite déesse, il n'était pas lui-même une bête, et dans l'affaire de la reconnaissance, il l'avait très joliment mise dedans et en plein encore, sans qu'elle se doutât de rien. Si Clémence prenait tant de précautions pour écarter Madame Méraud, c'est que ce testament n'était pas encore fait. Maintenant que le marquis écrivait difficilement, il serait obligé d'appeler un notaire, et un notaire accompagné de quatre témoins ne viendrait pas au château sans que cette visite fût connue. Alors il l'aviserait. Mais jusque-là, une chose devait le rassurer, à savoir que Clémence, qui avait voulu se débarrasser de Denise et des Méraud, n'entreprenait rien contre lui, bien au contraire. Qui l'a forcée de quitter l'Italie et de rentrer en France? Rien, absolument. Si elle était revenue, c'est qu'elle avait compris avec son esprit net et prudent que le seul moyen d'obtenir la fortune du marquis, c'était de devenir Madame de Carquebute. Et elle la deviendrait, foi d'honnête homme. Sans doute, cette liaison avec le marquis était difficile à accepter. Mais c'était un mariage. Il serait son troisième mariage, au lieu d'être le second, voilà tout. Héritage, mariage, préfecture, ministère, tout se tenait et il voulait tout. Sans compter la femme qui valait son prix, il en savait quelque chose. Lorsqu'il arriva, il trouva Clémence qui l'attendait dans le vestibule. Car c'est un des avantages de Rudemont que personne n'y puisse entrer sans qu'à l'avance on ne soit averti de la venue des visiteurs. Assise devant une fenêtre, elle l'avait vue monter la côte et elle accourait, curieuse de connaître la réponse de Louis. Cette réponse est bien ce que j'avais prévu, dit-elle en lisant la lettre. Ils sont perdus. Le moyen était risqué. Tous les moyens sont risqués. En réalité, il n'y en a pas de bons d'une façon absolue, pas plus qu'il y en a de mauvais. Le tout est de les combiner d'après le caractère de ceux auxquels on les applique. Avec un autre que votre neveu, il eût été dangereux de risquer cette invitation. Adressée à quelqu'un qui aurait su calculer, elle eût été déplorable, car ce quelqu'un eût compris que, pour épouser Denise, il ne fallait pas commencer par se fâcher, et qu'il valait mieux, au contraire, venir ici, si pénible que fût cette visite, discuter, négocier, en fin de compte, enlever ce mariage. Mais votre neveu n'est point de ce caractère. Lui, s'abaisser à faire une bassesse, même en vue d'un intérêt certain, même pour son amour, jamais. Avant tout, sa dignité et son devoir. Je le connaissais bien, tout d'une pièce. Et maintenant, conclut M. de Carquebus, peu sensible à cette leçon de morale pratique. Maintenant, étant donné le caractère du marquis, dont nous devons en ce moment avoir souci, voici ce que vous allez faire. Dans 5 minutes, quand je serai près de lui, vous entrerez votre lettre à la main et vous raconterez votre visite à Condé telle qu'elle s'est passée, sans aucune exagération. Il ne faut jamais en mettre dans la forme quand le fond vaut par lui-même quelque chose. M. de Carquebus se conforma à ce programme et, quand il entra dans la chambre du marquis où celui-ci se tenait toujours devant le feu, il trouva Clémence qui s'était mise au piano et qui jouait une valse de l'air le plus tranquille du monde. Elle se tut, mais elle ne quitta pas son tabouret et elle ne détourna même pas les yeux. « Déjà de retour, dit le marquis. J'ai voulu vous apporter cette lettre. »« Ah, une lettre ?» Monsieur de Carquebus, d'un air plein de commisération qu'il savait se donner dans les circonstances pathétiques, tendit la lettre. Alors le marquis, sans la prendre, se tourna vers Clémence. « Voulez-vous avoir la complaisance de nous lire cette lettre ? » dit-il. Elle se leva gaiement et vint au-devant de Monsieur de Carquebus, qui faisait au marquis des signes désespérés que celui-ci ne comprenait pas. « Eh bien, me donnez-vous cette lettre ? » demanda-t-elle. « La voici. » Elle l'ouvrit, mais à peine avait-elle eu le temps de jeter les yeux sur les premières lignes qu'elle pâlit. Dans sa main, la feuille de papier trembla. « Qu'avez-vous donc ? » demanda le marquis. Sans répondre, elle se cacha la tête dans son mouchoir et, de sa main restée libre, elle tendit la lettre à M. de Carquebus. Puis, quand celui-ci l'eut prise, elle sortit vivement de la chambre, en proie à une émotion violente. « Pourquoi diable avez-vous voulu lui faire lire cette lettre ? » demanda M. de Carquebus d'un ton bourru. « Mais... vous n'avez donc pas compris les signes que je vous faisais ?»« Je n'ai rien vu. » »« La pauvre petite femme, je ne suis pas sensible, mais, mille tonnerres, j'en suis tout renversé. » »« Que dit donc cette lettre ?» Vous m'avez quelquefois reproché d'être dur avec ma sœur, continua M. de Carquebus, sans répondre à cette interrogation. J'aurais dû l'être 1000 fois davantage. Sa conduite est indigne, je ne vous dis que cela. Exaspéré de voir que vous avez près de vous quelqu'un de dévoué, elle veut vous obliger à vous séparer de Mme Clémence. Elle a bien eu l'audace de dire qu'en restant près de vous, je m'associais à un scandale. Lisez, lisez-moi cette lettre. Monsieur de Carquebus ne se fit pas prier davantage et il lut la lettre de Louis en appuyant sur les mots caractéristiques. Sans rien dire, le marquis se dirigea, aussi vivement que le permettaient ses jambes tremblantes, vers la pièce dans laquelle était entrée Clémence. Mais la porte en était fermée à l'intérieur. « Ouvrez, dit-il, ouvrez !» Ce fut seulement au bout de quelques minutes qu'elle répondit qu'elle ne pouvait ouvrir. « Je vous en prie, si vous n'ouvrez pas, je fais enfoncer cette porte. » Comme elle tardait, il frappa à coups redoublés. Alors le verrou fut tiré. Une petite valise était ouverte sur une table et déjà une robe était placée dedans. À côté étaient étalés des objets de toilette. Au milieu de la chambre, Clémence se tenait immobile, le visage baigné de larmes. « Eh, quoi ? » s'écria-t-il d'une voix navrée. « Vous voulez partir ? » ?»« Je reviendrai, oui, je reviendrai bientôt, car je ne vous abandonnerai pas. Mais vous voyez bien qu'il faut que je parte. Je ne veux pas me placer entre vous et votre famille. Ma famille, c'est toi, dit-il en lui prenant les mains. Éloignez de vous vos amis. Qui m'aimera comme tu m'aimes ? Jamais personne, assurément, s'écria-t-elle avec un accent passionné. Alors, pourquoi veux-tu partir ? Et comment voulez-vous que je supporte de pareils outrages ? Comment voulez-vous que j'y reste, exposée pour les subir chaque jour ? Ma place n'est pas dans ce château. Votre cousine a eu raison de ne pas vouloir s'y rencontrer avec moi. Pour vous, Arthur, pour moi qui mourrais au milieu d'un pareil supplice. » Disant cela, elle entassa pêle-mêle dans la valise, avec des gestes saccadés, les objets qui étaient sur la table. Il voulait l'arrêter, mais elle s'échappa de ses mains. « Non, soyons forts, disait-elle, soyons fermes, on ne brave pas les lois du monde. C'est Dieu qui nous punit. Ah, malheureuse que je suis !» Puis, tout à coup, arrêtant ses plaintes et venant se placer devant lui, « Mais regarde-moi donc, s'écria-t-elle, que j'emporte ton image !» Il la prit dans ses bras et longuement il la contempla. Mais bientôt, la repoussant doucement, il alla à la cheminée et tira le cordon de la sonnette. Presque aussitôt, Valérie entra. « Demain, dit le marquis en se redressant, Monsieur Louis Mérot viendra pour me voir. Vous lui répondrez que, pour lui comme pour sa mère, je serai toujours absent. » Elle voulut intervenir, mais d'un geste ferme, il congédia le valet de chambre. Comme celui-ci allait fermer la porte, M. de Carquebus se glissa dans la chambre et, venant au marquis, les deux mains ouvertes, « Ce que vous avez fait là, dit-il, est d'un homme. J'ai entendu vos paroles à ce domestique, je vous approuve. Touchez-la. » Puis, se tournant vers Clémence, « Je vous demande de ne pas me confondre avec mon neveu. Il y a des sots dans toutes les familles. » Disant cela, il lui tendit la main. « Vous avez mon estime, et avec elle, vous aurez celle de tous les braves gens. C'est un honnête homme qui vous le dit. » Et simplement, dignement, en homme qui vient d'accomplir un devoir, il sortit, laissant le marquis et Clémence en face l'un de l'autre.